Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'imagerie raciste que les Blancs ont vis-à-vis des Asiatiques et qui continue d'exister dans l'imaginaire collectif, quand ça passe à travers, je sais pas, les caricatures avec le teint jaune très criard, les dents en avant, la natte, le chapeau conique, ça vient de l'époque de la propagande occidentale liée à l'idée du péril jaune, qui est apparue à la fin du 19e siècle pour désigner les Chinois et les Japonais, et la crainte qu'ils envahissent l'Occident, tout ça, tout ça. Ça a perduré au 20e siècle avec justement l'arrivée des Vietnamiens réfugiés de la guerre d'Indochine, et je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas une imagerie innocente et superficielle, mais que c'est une imagerie qui a un sens politique, historique, et qui est raciste. Enfin, ça vient d'imagerie de propagande, et qui visait justement à diaboliser les personnes asiatiques qui arrivaient en France, alors que elles arrivaient en France à cause de la colonisation et des guerres que les Blancs ont propagées là-bas.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime, afin de mieux se l'approprier.
Moi c'est Kelsey, je suis non-binaire, d'origine vietnamienne. Du coup, moi je viens de finir mes études à Gobelin, du coup je tente l'aventure de la bande dessinée pour essayer de me raconter sur un format plus long que ce que j'ai pu essayer de faire jusqu'à présent. Et ce que j'ai abordé pendant mes études, j'ai essayé de parler de thématiques qui m'étaient proches, en tout cas vers la fin, de parler de transidentité, ce qu'on a essayé d'aborder d'un point de vue sensible en le mettant en corrélation avec des expériences personnelles qu'on avait pu vivre. Et maintenant, du coup, j'ai envie de pouvoir aller plus loin, pousser ces questionnements et parler et imbriquer le fait que je sois racisé avec les questions queer.
Et aujourd'hui, quand tu te vois dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Quand je me regarde dans le miroir, je pense que je me regarde peut-être pas assez dans le miroir encore maintenant. Je me perçois comme étant une personne qui essaye de s'exprimer librement en termes de choix de vestimentaire autant qu'elle peut, alors que c'est pas forcément facile quand tu dois te confronter du coup au regard des autres, quand tu te dis moi je suis devant mon miroir, tel ou tel vêtement, par exemple, j'essaye des talons, je me sens hyper bien avec, mais je me dis « Ah, mais ça va devoir passer par le regard des autres dehors, et je risque peut-être de me faire alpaguer, ou plus violent encore. » Du coup, en fait, quand je me vois dans le miroir, j'ai une relation un peu conflictuelle, je pense, toujours, parce que je mets toujours en opposition ça, c'est-à-dire le regard des autres et mon propre regard. Genre, je peux me sentir hyper bien face à moi-même, me dire « j'adore comment je parais là, enfin ça correspond à ce que je veux renvoyer. » Et je me dis « Ouais, mais est-ce que je vais l'assumer du coup dehors ? Est-ce que je ferais pas mieux d'être accompagné ?» En fait, je pense que là où mon reflet s'exprime le mieux, c'est quand je suis accompagné de potes. Je dépends pas mal de la société encore à l'heure actuelle, et je trouve que c'est hyper pénible. J'aimerais bien que la société évolue beaucoup plus vite pour que je me sente moi-même tous les jours, en fait.
Si tu veux bien nous définir la différence entre être non-binaire et être gender fluide ou...
Du coup, la non-binarité, en fait, c'est un spectre, c'est un terme parapluie. Donc en fait, quand des personnes se définissent en tant que personnes de genre fluide, ça fait partie de la non-binarité, en fait. Elles peuvent se définir comme étant non-binaires. Et en fait, il y a toute une variété de genres, du coup, au sein de la non-binarité. Il y a des personnes qui sont de genre fluide, il y a des personnes qui sont de genre neutre, il y a des personnes qui se définissent en dehors des normes de genre. Il y a beaucoup de termes pour définir tous ces genres-là, en fait. Que d'ailleurs, je crois, Tinder a essayé de mettre en avant en mettant 47 possibilités de...
Tinder ou Grindr ?
Non, Tinder. Ah, peut-être Grindr aussi.
Oui, Grindr, c'est sûr.
Mais c'est Tinder, si, ils avaient fait toute une communication dessus. J'ai dit 47 au pif, ça doit peut-être être plus ou je sais
mais
pas.
Mais il y en avait, la liste était assez longue.
Ouais. Ça, c'était du pinkwashing.
On adore.
En bonne et due forme, comme à la marche de fierté.
Toi, tu te définis comment ?
Dans la non-binarité, oui, pour moi, je me définis comme de genre neutre, du coup, ouais. On appelle ça nos trois. Et voilà, c'était pour moi ce qui me correspondait le plus. Il y a aussi quelque chose de pour lequel j'aimais bien le terme aussi, c'est que l'androgynie, en général, on en parle de façon physique, mais ça peut aussi être un genre. Et du coup, voilà, ça me correspondait aussi plutôt bien. Mais le terme nos trois aussi me convenait tout à fait.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance, s'il te plaît?
Mes parents, en fait, ils sont militaires, ils se sont rencontrés à l'armée. Donc du coup, moi, j'ai déménagé à peu près tous les 2 à 3 ans de ma vie. Enfin, j'étais principalement en France. On a aussi déménagé à Djibouti pendant la période de la fin du collège jusqu'au début du lycée. J'ai une sœur qui a 8 ans et demi plus que moi. Donc en fait, on s'est jamais vraiment connus. On a une éducation assez stricte. Du coup, on n'a jamais vraiment appris à se connaître, on était pas mal en opposition. J'avais beaucoup d'admiration pour elle, mais avec cette distance du fait de pas pouvoir communiquer entre nous. Enfin, j'enviais beaucoup, justement, tout ce qu'elle laissait paraître d'elle, rien que le fait qu'elle ait les cheveux longs, machin, tout ça. En tant qu'enfant, mon père, il me laissait pas du tout pouvoir exprimer quoi que ce soit de féminin. Et du coup, enfin, j'ai développé beaucoup de frustration par rapport à ça.
T'as évoqué le fait que ton père soit super strict et ne te laisse pas exprimer une part de féminité. À l'époque, tu l'exprimais déjà, t'avais cette envie-là. Quelles étaient justement ces expressions?
Je me souviens que en primaire, je m'amusais pas mal à adopter des manières assez prononcées quand je parlais. Ou quand je marchais, et en général, ça insupportait pas mal mon père, qui pouvait se montrer assez violent quand il me surprenait avec ce genre d'attitude. Ma mère, en général, elle était assez choquée que mon père se montre aussi abrupt, disons, dans la façon de contrer ce genre de comportement. Mais du coup, elle n'intervenait pas distinctement. Et j'ai appris à réfréner cette façon que j'avais d'être à l'époque et qui m'épanouissait plutôt. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'étais enfant, j'étais beaucoup plus extraverti, je pense. Et justement, c'est ce fait de réfréner toutes ces envies que j'avais qui m'a plus enfermé dans la timidité que j'ai développée au fur et à mesure de ma vie. Du coup, genre par exemple, je devais m'efforcer de pas pleurer, qu'importe la situation. Je devais m'efforcer de parler sans ôter le son de ma voix en fin de phrase, carrément ce genre de choses, parce que sinon mon père, il avait envie de me claquer, quoi. Je me rappelle aussi que je dessinais pas mal de personnages féminins à cette époque. Du coup, au lieu d'être fier de ces dessins-là, j'avais tendance à les cacher, les garder pour moi, voire les jeter, les mettre en boule et les jeter très précipitamment pour éviter que mon père les voie. Parce que je savais qu'il allait peut-être juger du coup le fait que j'ai envie de dessiner que des personnages féminins, parce que je faisais à peu près que ça, en fait. Et donc, par exemple, quand il arrivait, etc., j'essayais plus de dessiner des trucs un peu plus classiques et standards, des voitures, des monstres, des trucs comme ça. Ça me plaisait aussi, par exemple, de dessiner des monstres et tout, mais je sais que, du coup, le fait de dissimuler un peu toutes ces autres envies, du coup, c'était pas très bien pour mon épanouissement, quoi. Je sais que aussi, quand j'étais gosse, je rêvais d'avoir les cheveux longs, mais la coupe que mes parents m'imposaient, c'était genre rasé 5 mm, tout ça, avec une petite houppette dégueulasse sur le sur le devant. Ça m'arrivait de remettre mes cheveux en arrière qui n'existaient pas, ce genre de choses, faire comme si ça pouvait se balader au vent et tout, alors que c'était pas là. Enfin, je pense que du coup, pas mal d'enfants qui sont socialisés en tant que garçons l'ont vécu, mais par exemple, le fait d'avoir la curiosité de vouloir tester le vernis de sa mère, de mettre des talons ou quoi que ce soit, je trouve ça hyper hyper chaud de devoir le faire en cachette quand ils sont pas là, ou ce genre de choses, parce qu'en fait, ça c'est le genre de truc où les parents, même des parents qui peuvent peut-être être ouverts d'esprit, vont pas avoir tendance à dire à leurs enfants « Ah si t'as envie de tester des choses ou quoi que ce soit, fais-le ». En général, c'est soit du coup des parents stricts qui vont du coup carrément vraiment réfréner ça volontairement, soit ça va être des parents qui peut-être n'en ont pas grand-chose à carrer, mais en fait vont pas le dire. Et je pense que c'est hyper important que des parents puissent dire à leurs enfants, qui sont socialisés comme garçons ou quoi que ce soit, si t'as envie de tester du vernis, fais-le. Si t'as envie de faire pousser tes cheveux, fais-le, en fait. Et plutôt que de dire ah mais si tu fais ça, mais ça va mal se passer à l'école ou je sais pas quoi, et ben pouvoir dire genre je t'encourage et t'as des remarques à l'école, et ben je vais venir et genre on va voir avec tes profs ou quoi que ce soit, avec la direction, on va dire que c'est pas possible de laisser encourager des comportements de harcèlement ou quoi que ce soit.
Et est-ce que ton père t'a toujours un lien avec lui ou pas?
Disons que c'est compliqué notre relation maintenant en fait. Il était extrêmement sévère du coup quand j'ai grandi et même avec ma sœur en fait ça a pas toujours été de tout repos. Il avait beaucoup de mal à gérer notre éducation et à gérer les conflits du coup qu'on pouvait avoir, donc ça pouvait très facilement devenir très violent, alors que en fait, je pense que je l'ai aussi mis en lien avec le fait que mon grand-père l'a éduqué de façon extrêmement stricte. Mon grand-père, c'est du coup un immigrant vietnamien qui est arrivé après Dien Bien Phu et qui connaissait pas la France, est venu je pense que du coup c'est quelque chose que pas mal de personnes aussi immigrées peuvent émettre vis-à-vis de leurs enfants, c'est le côté un peu hyper strict, hyper on doit s'intégrer, du coup tu dois travailler, tu dois enfin toutes ces choses-là en fait. Et du coup mon père a reçu une éducation vraiment je pense pas forcément très 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 saine, et il l'a pas très bien vécu lui non plus. Et en fait, il a voulu fonder une famille du coup avec ma mère et genre éviter de répéter ce genre de schéma. Sauf que ça a pas marché, parce que forcément quand t'es plein de petits traumas, et ça se répète. En fait, j'ai en analysant un petit peu ce que mon grand-père lui avait fourni comme éducation, ça a fait que j'ai essayé de le pardonner un peu entre guillemets sur sa propre façon d'être. Ceci étant, depuis la fin de mes études, on a arrêté de s'envoyer sur la gueule, etc. Il a pris beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et je pense qu'il regrette énormément de choses aussi de la façon dont il nous a éduqués avec ma sœur.
Parce qu'en fait, ton grand-père, il a fait l'armée...
D'abord au Vietnam, en fait, pour les Français. Puisque c'était comme ça que ça se passait, en fait. Joue français, pas mal de Vietnamiens. Soit devaient, lutter avec les Vietnamiens, soit avaient décidé, de rejoindre l'armée française. Mmh. Et en fait, je sais pas vraiment si on peut parler de décision, puisque en fait, énormément de Vietnamiens ont été nationalisés, quoi qu'il en soit, français à l'époque, et toutes les personnes qui étaient mineures, donc moins de 18 ans, étaient obligatoirement nationalisées français sans en tirer de bénéfices quelconques.
Ouais.
Je pense que oui, quand même, au niveau militantisme, c'était assez important d'avoir ce genre de témoignage, de savoir comment ça se passait du coup de l'époque coloniale, comment les Français traitaient les Vietnamiens qui étaient au service de l'armée, savoir par exemple les attirails qu'on leur donnait étaient de très piètre qualité, qu'on leur filait des guêtres déjà usagées, des armes usagées, en fait ce genre de choses qui fait que du coup, même je me rappelle que du coup il m'avait parlé de son père ou de son grand-père, je sais plus bien, qui avait participé par exemple à la guerre de Verdun et qui faisait partie des tirailleurs vietnamiens et en première ligne, en mode il est devenu sourd dès le premier jour en fait. Ça faisait en fait les Vietnamiens du coup on les considérait vraiment comme des sous-humains, mais on leur faisait croire que du coup ils étaient français comme les autres, que ça allait être hyper bien pour eux, que ça allait leur offrir un avenir meilleur, alors que c'était pas le cas du coup. Tôi được mắc sầu, ông trời mới cho tôi được mắc sầu, dòng cho thấu. No, there I go. Papers on the desk, wait for me to roll. Đây là nắng, mai là nắng, mưa mới là mưa. Hôm nay nắng đã nhìn thấy mưa chưa? Bây giờ hai người gặp nhau, TV đã cùng cùng bảy màu. Còn lại màu xám cứ để hay ta chìm sâu. Hay ta còn lâu. Nếu mày là beat của ta là easy rock. Nếu mày là rocker, ta là chili pepper. Nếu mày là rider, hi. Tao là Schumacher. Nếu mày muốn say hi, spaceship, see me from the sky. All day, stay fly, stay high all night. All day, stay fly, stay high all night. All day, stay fly, stay high all night. All day, stay fly.
Toi, t'es né en France et donc t'as des origines asiatiques. Est-ce que, au cours de ta vie, est-ce que tu as subi le mythe de la minorité modèle ?
Ouais, je pense que en fait aucun asiatique n'est épargné par rapport au mythe de la minorité modèle. Du coup, c'est des choses assez puériles auxquelles on nous renvoie, le fait que du coup on dit que les asiatiques sont travailleurs, assidus, genre silencieux, qui vont pas faire de vagues ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'est important du coup de remettre tous ces stéréotypes-là dans leur contexte aussi, et c'est quelque chose qu'on fait peut-être trop peu peut-être. Enfin, par exemple, quand la génération de mes grands-parents est arrivée en France, les conditions d'accueil étaient plus qu'exécrables. Les Viet Kieu, donc c'est les Vietnamiens immigrés, d'après la gare de Dien Bien Phu, ont pour la plupart été accueillis dans des camps de réfugiés aux conditions de vie hyper lamentables. Les camps ressemblaient à des prisons, leur organisation se calquait sur celle des colonies. Genre, ça s'illustrait par des barbelés, des interdictions de sortir, des travaux forcés pour des salaires complètement révoltants. Et ils ont appliqué aussi des conversions au catholicisme comme ils faisaient du coup dans le pays, mais aussi en France du coup pour les immigrés qui avaient conservé leur religion. On leur interdisait aussi de parler vietnamien. En tout cas dès qu'il y avait une autorité compétente blanche qui les encadrait. Et ouais, c'est quelque chose déjà qu'on retrouvait du coup de l'époque de la colonisation, et qui en fait on en parle assez peu, mais en fait c'est comme s'il y avait eu une après-colonisation pour les réfugiés vietnamiens qui ont continué à subir les mêmes procédés. Les parents devaient se tuer à la tâche pour nourrir leur famille, les loger dans des baraques totalement insalubres. Et quand certaines personnes essayaient de gueuler contre justement les conditions épouvantables dans les camps, les dirigeants les menaçaient, voire envoyaient en hôpital psychiatrique pour faire croire qu'ils étaient instables au niveau mental. Tout ça, du coup, pour les faire taire. Et du coup, c'est assez important de remettre, je pense, le mythe de la minorité modèle en lien avec ce genre de conditions d'accueil, entre guillemets, du coup, qui a été faite aux personnes immigrées asiatiques. C'est que du coup, pour les personnes qui essayaient du coup de revendiquer des meilleures conditions de vie, de meilleures conditions d'accueil pour leurs enfants, pour leur famille, pour se construire, pour se nourrir, du coup, elles étaient complètement silenciées, voire subissaient ce genre de répression extrêmement, extrêmement forte. Et il y a beaucoup d'Asiatiques, en fait, qui tombent dans ce piège et qui oublient vite que qui leur a imposé tous les sacrifices par lesquels ils sont passés, et qui préfèrent se réconforter dans le fait que les Blancs les considèrent, et encore à l'heure actuelle, du coup, comme la minorité exemplaire, quitte à se montrer ouvertement raciste vis-à-vis des autres minorités. Et je pense que c'est un gros enjeu à confronter pour les populations asiatiques, c'est le racisme dans nos propres communautés, et qui en tire les bénéfices, en fait, du coup, vraiment de replacer ce mythe de la minorité modèle dans son contexte, dans les conditions d'accueil des personnes immigrées.
Et je me demandais, est-ce que l'école, c'était pas aussi un espace de liberté, où tu pouvais t'exprimer différemment, par rapport à la maison, où c'était très strict?
Alors, ça, c'est arrivé plus vers le lycée, ou même, je dirais, beaucoup plus vers la fin du lycée, parce qu'au collège, par exemple, non, pas du tout. Enfin, c'était tout le contraire, limite, en fait, et c'est quelque chose que je trouve assez cinglant. Enfin, on me reprochait, par exemple, au tout début du collège, de traîner avec des filles. Par exemple, je me rappelle du coup de notre prof principal, qui était prof de sport, donc super combo. Et il avait fait en sorte, en fait, quand je suis entré en cinquième, de me changer de classe par rapport aux deux meilleures amies que je m'étais faites, qui étaient deux filles. Et en fait, il trouvait ça hyper inapproprié. Du coup, il avait été voir le directeur pour, que pour mon propre bien, mon épanouissement personnel, je puisse changer d'environnement, alors qu'en plus, c'est hyper ironique, parce que moi, je déménageais tout le temps. Donc du coup, me faire des amis quand j'arrivais dans une nouvelle région, c'était un peu dur. Et en général, du coup, je m'attachais beaucoup aux amis que je commençais à me faire. Et du coup, faire ça, c'était un peu hyper violent. Et tout ça, c'était sous un prétexte de c'est pas bien pour un garçon de rester avec des filles. Du coup, on va carrément voir le directeur, etc. pour lui permettre de s'épanouir. De toute façon, c'était un échec stratégique de leur part, puisque après, je me suis refait plein d'amis filles. Mais ceci étant, c'était quand même hyper frustrant, et c'était une des premières injustices aussi en termes de au collège que j'ai ressenti, genre que des adultes du coup censés être responsables puissent impacter ma vie comme ça, enfin volontairement en tout cas. Genre si ça avait été un peu au pif, que tout le monde avait été changé de classe pour un peu mixer toutes les classes et tout, en fait je l'aurais compris, mais là en fait du coup c'était on a été me voir pour me dire que c'était pas possible, qu'il fallait que je commence à essayer de me faire des amis garçons, tout ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire à un moment, traîner avec des gars random, à essayer de parler de foot ou je sais pas quoi, et moi j'en pouvais plus, genre, ils avaient leurs hormones qui croissaient, et puis du coup ils parlaient de meufs tout le temps, etc., comme des objets et tout. Moi j'étais en mode, non, enfin, je trouve pas ça ouf. Du coup, j'ai vite abandonné.
Hormis cette intrusion de ton professeur dans tes choix de vie, est-ce que tes camarades de classe étaient également hostiles ou remettant en question son attitude et ton comportement?
Par rapport à cette question, je pense que c'était plus indirect, genre au collège forcément, tous les enfants essaient de se donner un genre, de découvrir leur virilité, tout ça. J'ai peut-être essayé pas mal de m'intégrer en fait, au final j'ai essayé pas mal de camoufler tous les aspects un peu maniérés de ma façon d'être, et par exemple j'ai même essayer de réapprendre à marcher, parce que ouais, en fait il y avait quand même des groupes de filles ou quoi que ce soit qui me disaient que je roulais du cul, que je marchais un peu comme une tapette ou des trucs comme ça. J'essayais de le prendre avec beaucoup de recul, j'essayais d'être en mode ça m'atteint pas, et du coup j'ai essayé de réapprendre à marcher, limite je me suis fait des tutoriels à moi-même. C'était très 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 bizarre et gênant, j'essayais de me dire alors tu fais pas une ligne avec tes pieds, parce que c'est un peu ce que je faisais. J'essayais de d'écarter mes jambes pour marcher bien virilement, je sais pas quoi, ce qui était un peu ridicule. Mais les remarques, je pense elles étaient plus indirectes de façon générale, genre quand les mecs parlaient entre eux et qui disaient ça c'est trop un truc de PD, c'est un truc de tafiol ou je sais pas quoi. Moi qui commençais un peu à découvrir du coup que j'avais des attirances pour les mecs, du coup j'étais en mode mais ça me concerne peut-être, mais du coup en fait tu te sens, enfin tu vas rien dire quoi, enfin en fait moi ça m'est arrivé même de dire des trucs du genre mais moi je suis pas pédé ou des trucs comme ça, enfin c'était un petit peu très ironique, surtout que moi je commençais à me découvrir, je commençais à traîner sur tissu ou des trucs comme ça, à 13 ans et tout. Et du coup j'étais en mode, j'ai commencé à dissocier vraiment cette partie de moi-même, en plus mes parents réfrénaient totalement tout ça, donc du coup c'était à la fois à l'école, à la fois à la maison, et du coup j'ai commencé à me créer une double identité quoi. Au final, quand j'ai fait mon premier coming out, en tout cas par rapport à ma sexualité, c'était à 18 ans en fait, ce qui est pour moi je pense hyper tardif, hein. Ce qui était drôle, c'est que du coup c'était avec mon premier copain, et je me rappelle que du coup j'avais vraiment attendu de quitter le foyer familial pour me dire je peux peut-être être enfin moi-même. J'avais ma première école, et du coup je me rappelle j'ai appelé ma mère et puis j'ai fait je suis gay et voilà, et y a rien à en dire. Et en fait, j'ai limite raccroché sans attendre de réponse ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'avais trop accumulé de frustrations par rapport à l'éducation que mes parents m'avaient donnée. Et j'ai fait je veux pas attendre de réponse ou quoi que ce soit. Et du coup, après, on en a reparlé par la suite, mais c'est vraiment quelque chose que je les ai laissé digérer. Et moi, je faisais mon petit chemin et j'étais en mode j'ai pas envie de devoir me justifier. Enfin, quand on est non-binaire, le terme plus approprié, c'est plus de parler d'androphilie ou d'androsexualité, c'est-à-dire l'attirance pour les personnes masculines. Mais je continue de me revendiquer en tant que gay, parce que je trouve que ça a du sens politiquement toujours aujourd'hui, en fait, et c'est comme ça que j'ai commencé aussi à me construire au début de ma vie politique. Enfin, c'était même une de mes premières revendications, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup fait d'efforts aussi pour faire face à mes parents, faire face à mes amis ou quoi que ce soit, donc je conserve du coup toujours ce terme, mais c'est surtout d'un point de vue politique que je le dis, parce que sinon, comme je disais, d'autres personnes non-binaires pourraient préférer d'autres termes.
Et est-ce que t'avais des alliés avec qui tu pouvais te permettre d'être toi-même ou poser des questions?
C'est cette question un peu du silence où on n'en parle pas trop, et donc du coup, en fait, c'était des personnes qui étaient ouvertes, enfin, quand je me suis fait des amis au lycée. Ce genre de questions venaient pas d'emblée en fait sur le tapis, voire il y avait quand même toujours un peu des remarques sur la binarité de genre ou quoi que ce soit, sur certains rôles un peu qu'on pouvait avoir en tant que fille ou en tant que mec, etc. Et donc du coup, moi, j'osais pas dire « bah non, mais c'est possible de dépasser un peu ce stade-là ». Et puis j'avais pas du tout la confiance de pouvoir en parler, ni les mots, ni le vocabulaire, ni quoi que ce soit, en fait. Et donc du coup, en fait, bah j'ai quand même fait ma première marche des fiertés quand j'étais en terminale, mais j'étais pas vraiment... out, en fait, enfin, j'y suis allé un peu par curiosité, avec des amis qui prenaient ça comme quelque chose de festif, alors que pour moi, dans ma tête, bah, c'était « waouh, en fait, il y a plein de personnes qui me ressemblent, il y a plein de personnes qui sortent des sentiers de la binarité de genre, il y a plein de personnes qui affichent leur orientation sexuelle, et moi, du coup, c'était hyper libérateur ». Mais du coup, mes potes le voyaient plus comme « Ah, bah, il y a de la musique, on s'ambiance, tout ça », donc du coup, ouais, vraiment le côté très dépolitisé. Et ouais, au lycée, en fait, je pense que mes potes étaient plus au niveau politique sur des questions bah, très anarchistes, de gauche, etc., mais pas du tout sur des questions de parler de la place des personnes racisées, des personnes LGBT dans les luttes, et ça, c'est quelque chose qui arrivait bien plus tard, du coup. Même au début de mes études, c'était pas trop ça, et c'est plus arrivé... bah quand j'étais en troisième année d'études, du coup, où j'ai commencé à connaître un peu le féminisme avec avec des filles qui en parlaient, qui étaient très ouvertes sur ces questions, et puis moi de toute façon, bah du coup j'avais un copain à cette époque, etc., donc du coup j'étais beaucoup plus enclin à parler de ces questions-là, à découvrir un peu tout ça, mais la question intersectionnelle, elle est venue beaucoup plus tard encore, genre c'était bah il y a 2-3 ans, en fait, quand j'étais pendant mon cursus des Gobelins, avec les réseaux sociaux, les articles, les vidéos de vulgarisation, bah déjà découvrir la non-binarité, quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. Dans mon fort intérieur, j'avais jamais correspondu, je pense, à ce qu'on imposait, à ce que la société essayait d'imposer par rapport au genre féminin ou masculin. Et... du coup, ouais, ça a été un gros déclic de découvrir ça dans des vidéos, dans des groupes sur Facebook ou quoi que ce soit, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir échanger avec des personnes concernées, grâce à Twitter ou du coup, j'ai vu bah, des personnes racisées parler du lien entre leur racialisation et leur identité de genre. Il y avait des personnes trans racisées, des personnes non-binaires racisées, etc., qui faisaient le lien. Et je pense que le plus gros déclic, peut-être, du coup, là, c'était pas sur Twitter, mais c'est plus quand j'ai vu, du coup, une personne non-binaire, artiste, poète, performer à la Mutinerie, il y a 2 ans, pour la première fois, et je l'ai revue cette année, du coup. La Mutinerie, c'est un bar, un des seuls bars à Paris qui essaye d'avoir une démarche intersectionnelle, de mettre en avant les questions de féminisme et de célébrer comme ils peuvent, du coup, les personnes racisées, leur histoire, de parler de colonisation. Alok Venmenon, du coup, est une artiste non-binaire, d'origine indienne, qui évoque justement le fait que la colonisation a eu un impact désastreux sur les populations racisées. Bah, quand en fait, par exemple, les colons sont arrivés et ont décrété que pour les populations non blanches qui célébraient d'autres genres que le genre féminin et masculin, bah, que c'était quelque chose de complètement insensé, qu'on allait leur réapprendre à percevoir le genre de la vraie manière occidentale, blanche. Du coup, Alok Venmenon en parle beaucoup et tacle pas mal bah, les personnes blanches qui du coup croient que les pays aux populations non blanches sont très en retard sur les questions d'identité queer, d'orientation sexuelle, etc. Alors que en fait, ce qu'elle remet en avant, c'est le fait que bah c'est dû à la colonisation, en fait, si pas mal de populations qui ont été colonisées ont intégré des principes binaires, ont remis en cause toute l'organisation de leur société, où en fait bah, les personnes qui étaient d'un autre genre en fait pouvaient participer à énormément de choses au sein de la société, qui étaient normalement communément admises pour les femmes, mais aussi pour les hommes, du coup, et étaient même célébrées. aussi assez... Enfin, ça m'a fait du bien aussi de voir qu'il pouvait remettre en question, du coup, le féminisme blanc auquel j'ai été pas mal confronté pendant mes études, en fait, et de dire que les corps des personnes racisées et non conformes dans le genre étaient pas assez considérés, voire pas du tout considérés dans les luttes féministes à la majorité blanche et cisgenre, parce que bah c'est ce qui a aussi forgé un peu les luttes de la communauté LGBT, et qui continue d'inspirer aussi, même Alok en parle, mais... bah les grandes marques, etc., en fait, même dans la mode, en fait, quand des créateurs s'inspirent du coup de personnes non conformes qui leur semblent hyper belles et extravagantes, mais que du coup les crédits ne leur sont pas rapportés, mais que par contre bah du coup on se dit ah ça c'est super beau, ce serait super bien, et essayons de binariser tout ça pour le vendre. Du coup ouais, je trouvais ça cool que Alok en parle, parce que en plus il y a là un rapport assez fort justement aux vêtements, à tout ça, enfin parce que du coup dans la société telle qu'elle est faite aujourd'hui, les personnes non conformes dans le genre peuvent subir du harcèlement dans la rue, être menacées, être tabassées. Parler de ces violences, mais en poésie en plus, enfin, je trouve ça hyper fort parce que du coup c'est à la fois cinglant, à la fois hyper porteur. Enfin, ça vaut vraiment le coup d'œil, enfin le coup d'écoute. Et du coup ouais, j'ai fait un peu du binge watching de tout ce que je pouvais apprendre sur le genre. Je me suis vraiment renseigné de fond en comble, en fait, parce que j'étais en mode waouh, enfin genre c'est fou, enfin ça me correspond vraiment, et ça me faisait du bien de pouvoir mettre des mots dessus. Bah après c'est avec ça où j'ai commencé à essayer d'en parler autour de moi, d'essayer de voir aussi quel accueil ça pouvait avoir auprès de mes proches. Je me suis vite rendu compte que en fait on en parlait tellement peu que bah c'était facile de prendre ça pour une lubie. Ou par exemple je me rappelle de réflexions du genre mais moi aussi dans ce cas-là je suis non-binaire et tout, vraiment comme si c'était quelque chose à la mode, je sais pas, enfin j'ai eu tout hein, comme réaction, c'était mais t'es sûr, mais c'est compliqué quand même, ça remet en question plein de trucs et tout, mais comment je t'appelle, etc. Mais
tu leur expliquais quoi concrètement?
Bah je leur disais j'ai découvert du coup la non-binarité, et je trouve que ça me correspond bah énormément, et donc j'aimerais bien que du coup maintenant on se réfère à moi de façon neutre le plus possible. Après du coup j'ai aussi fait des démarches du coup pour changer mon prénom aussi en mairie, et du coup ouais, ça a été une grosse étape je pense aussi pour moi, enfin le fait que du coup j'ai envie d'avoir un prénom mixte et que du coup je fasse les démarches pour. Et ça m'a aussi donné de la crédibilité, je pense, de faire ça aussi. Enfin, c'est un peu ça que j'avais en tête, alors que bah, ça devrait pas être le cas, hein, parce que c'est quand même assez complexe, les démarches qu'il faut faire, et c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Il faut être assez armé au niveau mental ou quoi que ce soit, pour réunir les papiers, pour y aller, etc. Donc ça devrait pas être un critère de justification, mais le fait de pouvoir changer mon prénom, etc., du coup, ça m'a permis de me dire, ouais, bah je suis crédible à me faire appeler comme ça, à dire que oui, je préfère qu'on se réfère à moi au neutre, etc.
Et ton prénom, avant, il était français d'origine, enfin, je sais même pas comment on dit.
Ouais, j'avais un prénom français.
Genre masculin.
D'origine, okay. Ouais, d'origine irlandaise.
Et pourquoi, du coup, Kelsey? C'est très joli.
Quand j'ai fait changer mon prénom, du coup, j'ai voulu accorder beaucoup d'importance à la signification qu'il pouvait avoir. Donc du coup j'ai fait pas mal de recherches sur divers prénoms mixtes, et Kelsey c'est un prénom du coup qui veut dire en ancien gaélique l'île au bateau. En fait je trouvais la métaphore hyper belle et en fait très reposante pour moi, parce que genre dans ma tête ça faisait comme si du coup tous les lieux où j'avais été, d'où j'ai dû partir, enfin même l'imbrication de mon identité de genre, de mon orientation sexuelle et de mon identité en tant que personne d'origine vietnamienne, comme si tous ces éléments se rejoignaient sur une île, accostés, tout ça.
arriver à bon port.
Voilà. C'est trop beau.
Oui. Et du coup, bah, ça me calme. Ouais, c'est un peu comme un espèce de pilier quand j'y pense. Et du coup, bah, je trouvais que c'était assez beau de prendre ce prénom.
Enchanté, voilà. Kelsey. À quel moment est-ce que t'as compris que t'étais asiatique?
Une des premières fois où j'ai pris conscience que j'étais asiatique, c'était au début du primaire. Du coup, on était à la cantine avec quelques camarades de classe et j'ai demandé à une amie blanche pourquoi elle ouvrait ses narines subitement parfois et genre c'était une sorte de tic musculaire et du coup c'était hyper stérile de poser une question pareille. Mais du coup en fait sa réponse ça a été et toi pourquoi t'as les yeux comme ça genre en tirant ses yeux sur les côtés. On n'est pas vraiment pourquoi elle avait fait ça. Enfin, quand je suis revenu en fait à la maison le soir, j'ai demandé à ma mère pourquoi il y a une amie qui m'a dit que j'avais les yeux qui étaient tirés comme ça sur les côtés. Et ma mère, elle m'avait répondu quelque chose d'assez étrange, je pense. C'est parce que les gens, ils voient pas la même chose que ce que tu vois. Et en fait, c'était hyper perturbant. Et parce que du coup, je me disais, ah, donc en fait, ce que je vois dans mon reflet, c'est pas ce que les gens, ils voient. Et du coup, au lieu de m'expliquer genre le racisme, les biais du racisme auquel je pouvais amener à être confronté, ça m'a un peu enfermé dans une espèce d'angoisse de penser que bah les autres personnes autour de moi voyaient pas la même chose que ce que je voyais. Et du coup, quand t'es gosse et que tu te construis, que t'es un peu une éponge, t'es un peu genre... Ça te met un peu en PLS de te dire ça, genre... Parce qu'en plus, je veux dire... En tant qu'asiatique, j'ai pas non plus les traits hyper marqués. Et moi, vu que je comprenais pas trop à cette époque, quand j'étais jeune, et que j'avais pas les mots pour en parler, qu'on m'a pas vraiment expliqué le racisme, etc. Et bah, du coup, je me suis dit, ok, bah, du coup, je faisais une totale déconnexion entre moi-même et ce que les gens percevaient de moi-même. Et du coup, ouais, ça m'a pas trop aidé dans la construction de, à la fois, de déconstruire un peu la binarité de genre, de me découvrir, et en même temps, bah, du coup, de m'appréhender en tant que personne d'origine vietnamienne.
Et ces réponses-là de construction au niveau de ton identité raciale, tu les as eues où? Comment ça s'est arrivé?
Je sais que des fois je me référais à mon père quand je me recevais certaines remarques et que lui il a insisté à fond sur le fait que je doive dire non mais tu dis que t'es français avant tout mais que t'es juste d'origine vietnamienne comme si c'était juste quelque chose en amont, donc du coup c'est un peu des réflexes que j'ai essayé d'avoir. Quand je répondais aux gens, j'étais un peu en mode « Non, mais je suis français d'abord, quoi que ce soit », même si, par exemple, genre, je sais pas, au collège, on abordait le chapitre sur le Vietnam à la rage totale, et que du coup, on me demandait si j'avais quelque chose à en dire ou quoi que ce soit, mais j'étais en mode « Mais non, mais je suis français ». J'ai pas mal mis ça de côté, en fait, pendant très très longtemps. Ouais, en fait, cette démarche aussi-là de me reconnecter un peu avec mes origines, elle est hyper récente. Je pense que c'est aussi en découvrant un peu le milieu militant... En découvrant toutes ces questions-là, où j'ai commencé à me dire, ça peut être bien d'en parler, ça peut être bien de me reconstruire par rapport à cette identité aussi à laquelle j'ai pas trop eu accès, parce que mon père voulait jamais vraiment en parler. Les seuls éléments de culture que j'ai pu avoir, c'était à travers la cuisine, et en voyant du coup mon grand-père, mon oncle, quand je voyais mon grand-père et mon oncle, c'était pas très fréquent, puisqu'on n'habitait pas dans la même région. Et donc du coup, ouais, j'ai été longtemps déconnecté de toutes ces racines. Et même par rapport au genre, du coup, c'est aussi quelque chose qui s'imbrique beaucoup. Genre, je sais que beaucoup de personnes, du coup, dans la rue, que ce soit commerçants, me disent d'emblée « Madame », même si, en fait, du coup, je peux, par exemple, sortir en jogging, être complètement dégueulasse, genre faire aucun effort vestimentaire ou quoi que ce soit. Et en fait, je sais aussi que c'est pas mal connecté, du coup, le fait d'assimiler des traits fins, lisses, etc., enfin, par rapport à ce qui ressurgit de mes origines, et le fait de se dire, par rapport aux critères occidentaux, ça correspond à l'image qu'on a de la féminité, donc du coup, forcément, voilà, et donc du coup, c'est vraiment, je pense que tous les jours, qu'importe comment j'apparais, je vais mettre les gens un peu en PLS par rapport à la façon de me genrer. Genre, je me rappelle d'une fois où j'étais dans un bar, où j'allais aux toilettes, et pareil, en fait, j'étais en jogging et tout, je m'en foutais, je revenais de cours, enfin, on avait juste décidé de prendre un coup à l'arrache. Et là, en fait, il y avait la queue pour des toilettes, et il y avait une toilette turque, et donc du coup, il y avait un groupe de filles... qui voulait pas y aller parce que c'était pas confortable ou quoi que ce soit, et moi je fais moi j'y vais, Du coup, je m'y rends et là, en fait, je les entends dire pendant tout le temps où je fais pipi, mais comment c'est possible? Mais c'est une fille, mais qu'est-ce qui se passe? Mais elle fait pipi debout, je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Mais c'est une fille, c'est un garçon, je sais pas quoi et tout. Et en fait, elle commence à débattre et tout pendant tout le temps où je suis aux toilettes, quoi. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je sors et en fait, je les vois genre s'arrêter net et me fixer, me dévisager pendant que je me lave les mains. C'était genre un moment hyper gênant. J'étais en mode, mais waouh, genre... Et ouais, en fait, mais le pire, c'est qu'en fait, ça m'arrive hyper fréquemment, ça, genre, même je vais dans le train ou quoi que ce soit, t'as quelqu'un qui commence à parler de mon genre, genre, devant moi, enfin, à la troisième personne, enfin, genre, mais c'est un garçon, c'est une fille, qu'est-ce qui se passe, ou même, genre, j'ai été dans un supermarché, et genre, quand je faisais la queue à la caisse, enfin, pour atteindre les caisses, t'as quelqu'un qui commence à marmonner dans sa barbe juste derrière moi, mais littéralement derrière moi, et ouais, elle se posait des questions sur mon genre et tout, et moi je me retourne et je lui fais mais ça va, oui, enfin genre un problème.
Je vous dérange?
Ouais. Et du coup il fait ah mais non mais on n'est pas sûr, enfin je sais pas. Et du coup j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que ça peut lui faire?
Ouais, qu'est-ce que ça peut lui faire et tout, et mais ouais, mais du coup j'ai compris aussi ça, bah du coup quand je faisais vraiment aucun effort pour paraître des fois, bah quand je me sens bien du coup, à mettre des boucles d'oreilles, à mettre du maquillage ou quoi que ce soit, et que je me rends compte que même quand je suis pas comme ça du coup, où normalement je pense que pour des personnes racisées ou asiatiques, etc., qui ont plus l'habitude de côtoyer des personnes asiatiques, je pense que je parais plus masculin, mais en fait non, pour les personnes blanches du coup, je parais automatiquement genre... féminin, ou alors je les mets en PLS même si genre je transgresse pas non plus trop quoi que ce soit quand je sors en jogging, en bonnet.
Dans quelle mesure est-ce que c'est pratique d'avoir un physique androgyne pour se revendiquer de genre non-binaire?
Tu vois, quand on emploie le terme pratique, du coup je pense que c'est quelque chose d'assez compliqué, je pense, pour les personnes non-binaires, parce que bah en fait il y a rien de pratique quand on est justement invisibilisé par la société. En fait personne ne nous reconnaît comme étant non-binaire, en fait. Bah tu vois, par exemple, si je vais chez des commerçants divers ou genre boulangerie, pharmacie ou quoi que ce soit, en fait, il y a personne qui va se dire il existe autre chose que madame, monsieur. Je pense que pour n'importe quelle personne non-binaire, quel que soit son passing, c'est quelque chose d'assez toujours déstabilisant, en fait. Enfin, genre de se dire, bah en fait, la société dit qu'on n'existe pas, n'a pas légiféré du coup quoi que ce soit sur nos identités. On peut pas du tout avoir de marqueur de genre neutre sur à l'état civil, ce qui a commencé à arriver du coup aux États-Unis dans certains pays ou dans d'autres pays. Mais en France, c'est pas du tout le cas. Je pense qu'avec la manif pour tous et tout ça, et comme on leur donne de la visibilité, ça risque pas d'arriver avant longtemps. Pour moi, pour me sentir bien, disons que bah, enfin, j'aime du coup jouer avec plein de codes de esthétique, masculin, féminin, les mélanger, etc., pour paraître comme je l'entends. Du coup, je me contente très bien de comment je parais en termes d'androgynie, mais c'est pas du tout genre quelque chose d'évident du coup pour les autres, et en fait moi ça me provoque beaucoup de malaise et d'inconfort quand bah justement des gens du coup se permettent de débattre de mon genre devant moi alors que je leur ai rien demandé, que je lis un livre. Ou des fois, même, ça peut devenir assez dangereux aussi, parce que, par exemple, je suis à la bibliothèque et t'as un mec qui essaie de m'aborder en me prenant pour une meuf, et en mode bien lourdingue, et qui après se rend compte que je suis pas une meuf, bah en fait, ça peut devenir dangereux, parce que genre, à la bibliothèque, du coup, il s'était rien passé ou quoi que ce soit, mais dans la rue, par exemple, aussi... Si genre je me balade et que du coup t'as un mec lourdingue qui commence à m'aborder, à me dire « Hey, tu veux pas que je te porte ta baguette de pain, ça a l'air trop lourd » ou je sais pas quoi. Et que après en fait moi je me dis, si je réponds, en fait il va se rendre compte du coup de par ma voix que je suis pas une meuf selon ses codes, tel qu'il se les représente. Du coup moi je me dis « Ouais bah du coup dans ce genre de situation tu fais quoi? Tu réponds rien, tu t'en vas parce que sinon il peut t'arriver de la merde en fait. » Et c'est quelque chose auquel je pense tout le temps, du coup, quand je sors, et que j'ose en plus, du coup, jouer avec des codes esthétiques moins binaires. C'est justement hyper important que l'administration française puisse comprendre que ces identités sont importantes et qu'il faut en parler, et qu'il faut aussi éduquer les profs, l'éducation nationale, ou quoi que ce soit, justement, sur ces questions-là aussi, pour en parler bah, ouvertement, je pense, aux gens, pour que ce soit intégré dans la tête des gens que oui, il n'existe pas que des hommes et des femmes, que un homme aussi même peut porter des éléments considérés comme féminins et inversement, sans que ça veuille dire quoi que ce soit sur son genre aussi. Je pense que c'est hyper important. Et ouais, je pense que pour ça aussi, sans mettre du coup tout sur le dos par exemple des profs ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est hyper important que quand on est au collège, les profs puissent aussi intervenir sur ces questions-là, défendre des élèves, plutôt que des fois de se dire non, j'ai pas de point de vue là-dessus, je garde le silence. Enfin, le silence, c'est quelque chose qui peut faire énormément de mal, et ouais, je pense que c'est quelque chose qui doit être intégré dans le système éducatif, et puis que ouais, qu'à l'Assemblée, il y a moins de personnes cis, blancs, hétéros, qui du coup légifèrent nos vies.
Comment s'est passé ton éveil militant ?
Du coup, je crois que comme pour pas mal d'Asiatiques de ma génération, c'est peut-être la mort de Shaolin Zhang, qui était un couturier qui de 49 ans, qui a été agressé et qui s'est fait voler du coup par trois personnes, et il est décédé de suite à ça. Et ça a été pas mal médiatisé, il y a eu beaucoup de manifestations qui sont passées un peu partout en France, et du coup j'avoue qu'en voyant ça, ça a peut-être commencé à faire un petit déclic sur le fait que oui, la communauté asiatique avait des choses à revendiquer. Ceci étant, il y a aussi pas mal de choses à remettre dans leur contexte par rapport à ça, parce qu'il y a aussi une grosse partie de la communauté asiatique qui du coup tombe dans le mine de la minorité modèle et demande à ce qu'il y ait un renforcement de la sécurité, que ça passe par la police, tout ça. Enfin voilà, c'est pas forcément la meilleure des options. Alors qu'on sait très bien que la police, du coup, peut pratiquer le contrôle au faciès, etc. pour d'autres minorités. Par la suite, j'ai commencé à appréhender les luttes liées au racisme anti-asiatique, au milieu de la minorité modèle, et surtout avec la découverte de la communauté asiatique militante sur Twitter, qui partageait en fait pas mal d'expériences personnelles, et le fait que tout le monde essaye de le mettre en connexion avec l'histoire de nos communautés, essaye de politiser justement des expériences personnelles pour parler de la colonisation, l'impact que ça a eu, et en fait du coup d'assimiler un peu toutes ces informations, le fait que plein de personnes de ma génération essayent justement de mettre des mots sur nos expériences et essayent de faire le lien avec comment tous ces mythes se sont créés, comment ça se pratiquait de l'époque de la colonisation, etc. Je trouve que c'est hyper constructif, c'est aussi assez récent au final, puisque aux États-Unis, ça arrivait bien avant la France, mais en France, du coup, on en parle à peine, en fait. Et en fait, du coup, quand tu découvres le militantisme et le fait que t'as le droit de te revendiquer, que d'autres personnes partagent ce genre d'expérience et veulent l'ouvrir, tu te dis, ouais, non, maintenant, je laisse plus passer ça. Mais à part ça, je pense que dans le militantisme asiatique, on parle surtout de heurts interpersonnels, en fait, mais on le remet pas souvent dans le contexte historique, et je pense que ça, c'est l'étape de plus à avoir, en tout cas pour les populations sud-est asiatiques qui ont vécu la colonisation. Du coup, ouais, je pense que c'est important de rappeler que, d'ailleurs, que l'imagerie raciste que les Blancs ont vis-à-vis des Asiatiques, et qui continue d'exister dans l'imaginaire collectif, quand ça passe à travers, les caricatures avec le teint jaune très criard, les dents en avant, la natte, le chapeau conique, ça vient de l'époque de la propagande occidentale liée à l'idée du péril jaune, qui est apparue à la fin du 19e siècle pour désigner les Chinois et les Japonais, et la crainte qu'ils envahissent l'Occident, tout ça, tout ça. Et ça a perduré au XXe siècle avec justement l'arrivée des Vietnamiens réfugiés de la guerre d'Indochine. Et je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas une imagerie innocente et superficielle, mais que c'est une imagerie qui a un sens politique, historique, et qui est raciste de base. Parce qu'en fait, ça arrive encore, même autour de moi, je le vois, hein, quand il y a des Blancs qui essaient de caricaturer des Asiatiques ou quoi que ce soit, qui les dessinent avec le petit chapeau conique, des traits à la place des yeux, tout ça, des petites dents, là, qui dépassent, en fait, mais tout ça, c'est pas vide de sens, en fait, ça vient d'imagerie de propagande, et qui visait justement à diaboliser les personnes asiatiques qui arrivaient en France, alors que elles arrivaient en France à cause de la colonisation, tout ça, et des guerres que les Blancs ont propagées là-bas. Donc c'est pas anodin. Et du coup, avec la découverte du militantisme, j'ai découvert que j'étais pas seul à avoir intégré tous ces mécanismes, et à vouloir recouvrer notre intégrité, à l'ouvrir, à politiser nos luttes. Et ouais, les premières fois quand j'ai commencé à en parler, par contre, autour de moi, dans des milieux assez blancs, puisque du coup, dans les écoles d'art, d'animation, mais sur très peu de personnes racisées, très peu de personnes queer aussi. Et du coup, les premières fois où j'ai commencé à en parler autour de moi, enfin du racisme anti-asiatique, commencé à gueuler contre le whitewashing, l'appropriation culturelle... le manque de représentation au cinéma, j'ai assez vite pris conscience que malgré l'engagement de certaines personnes pour l'écologie, l'antispécisme, les problématiques des personnes racisées et LGBT étaient très peu considérées au sein de ces luttes. Je me suis aussi confronté du coup au féminisme blanc, au fait que du coup on prenne pas du tout en considération les personnes LGBT racisées pour parler de sexisme, de harcèlement, de toutes ces questions-là. J'ai eu droit à beaucoup de tone policing. Genre le tone policing, c'est quand on veut remettre le discours d'une personne à sa place, entre guillemets, parce que du coup on la juge trop véhémente et que du coup en fait on décrédibilise son discours en disant ah non mais t'es trop vénère quand tu parles de ça, de toute façon on peut pas parler avec toi. J'ai eu droit beaucoup à ça, j'ai eu droit aussi à beaucoup de mécanismes de défense en fait, à pas mal de mais je suis pas raciste, t'abuses complètement, comment t'oses me faire passer pour quelqu'un de raciste, tu sais très bien que c'est pas ce que je voulais dire. Par rapport à la déferlante de tone policing à laquelle j'ai eu droit, j'ai réalisé que c'était beaucoup trop facile justement pour des militants écologistes, antispécistes, d'avoir recours à ce genre de phrases comme tu vois, mais moi je suis pas aussi véhément quand je milite, enfin pourquoi t'es comme ça, du coup quand tu me parles de racisme ou je sais pas quoi, enfin franchement, et ça te balance des white tears et tout ce que tu veux. Ces luttes, elles peuvent pas être comparées parce qu'elles sont pas vécues sur le même plan. Pour les luttes antispécistes, on le fait en général par choix, parce qu'on a décidé qu'on voulait plus fermer les yeux sur les conditions de vie d'autres êtres vivants. Mais en soi, on peut aussi bien décider de fermer les yeux, de faire des entraves par rapport à un régime alimentaire sans produits d'origine animale, sans que ça nous impacte directement. Alors que quand on est queer ou racisé, on peut difficilement fermer les yeux sur des violences qu'on subit, quand elles sont inscrites dans des textes de loi, quand on les retrouve chez le médecin, à l'école, dans la rue, et on peut pas dissimuler une colère qu'on a en général hyper longtemps étouffé, qui est une colère légitime en fait, et qui est juste liée à la simple volonté de vouloir exister sans se cacher, sans avoir honte de soi. Et alors, en fait, ces luttes, elles s'imposent à nous. En fait, quand on est queer et racisé, c'est juste parce qu'on a envie d'avoir les mêmes droits que les autres, on a envie d'être représenté et on a envie de d'exister en fait. Et
est-ce que toi, dans ta démarche artistique, tu milites quelque part dans ce que tu fais, dans tes œuvres?
C'est quelque chose que j'ai commencé à faire assez récemment, ça, du coup, de me dire que on avait assez peu d'une vie, entre guillemets, pour que, quand on a le loisir de s'exprimer, qu'on a fait des études d'art, etc., et que ces questions-là nous concernent, justement, du fait de vouloir exister dans la sphère publique, en tant que personne queer et racisée, de vouloir revendiquer nos droits, en fait, on se dit qu'on doit utiliser... Oui, c'est pas une injonction, à faire aux personnes queer et racisées. Ça peut être hyper dur, justement, de se mettre en avant sur ces questions-là, parce qu'on doit affronter tout un système qui est très blanc, hétéronormé, cisgenre, justement, avec les diffuseurs, les producteurs, nos profs, en fait, même. Je me suis dit qu'en fait, ça commençait à avoir beaucoup d'impact dans ma vie, qu'en fait, ça m'avait aussi pas mal rongé de l'intérieur depuis que j'étais gosse, et que c'est aussi ça qui m'a donné envie de dessiner, entre guillemets, de me mettre à vouloir m'exprimer en dessin, en animation, et je me suis dit, mais il faut absolument que je le mêle, parce que au début, je mettais un peu ces questions de côté, enfin, disons, j'essaie juste de me découvrir graphiquement, ou quoi que ce soit, sans forcément rentrer dans le vif du sujet, et j'ai vraiment voulu profiter de l'opportunité d'avoir un certain rayonnement avec l'école dans laquelle j'ai été, pour me dire, je vais faire un film sur... le manque de communication intrafamiliale, sur des problématiques liées au genre, et dénoncer justement le peu d'écoute qui est accordé aux enfants qui essaient de se construire, sur tout ce dont on a abordé déjà précédemment, sur le fait de vouloir construire son identité, de vouloir tester des choses. Et du coup, je me suis dit, s'il y a bien un moment où je peux essayer de rentrer dans ces sujets-là, c'est peut-être pendant mon film de fin d'études.
recevez un nouveau message. Aujourd'hui à 15h54.
Bonjour madame, je vous contacte au sujet de votre fils. Il a été surpris dans les couloirs en train de se bagarrer avec un camarade de classe. Nous avons, comme vous le savez, tolérance zéro vis-à-vis de la violence. La situation nous oblige donc à l'exclure pour une semaine. Par ailleurs, si je puis me permettre un conseil, ce serait bien de ne pas encourager ses petites fantaisies vestimentaires. D'après ses professeurs, ce n'est pas la première fois qu'il s'emporte avec ses camarades à ce sujet. Un peu plus de discrétion lui éviterait peut-être quelques problèmes. Bonne journée.
T'es fière de toi ? Je vais devoir trouver le moyen de revenir à la maison tous les midis, moi, maintenant. T'as pas intérêt à te faire remarquer de la semaine.
Bien. Vous allez le connaître dans quelques instants.
Moi, je vais la vise.
Mais oui !
Ah ouais ?
Mais bien sûr ! C'est très bien. J'aimerais bien que Gérard, pour la famille qui va nous quitter, vous avez été une bonne famille. Montant peut-être un peu d'entraînement, montant peut-être de chance, également. On va partir avec une somme d'argent.
Maman ? Est-ce que tu peux répondre à une question ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai besoin de savoir, quand je mourrai, est-ce que je pourrais être une fille ?
Ça n'a pas été genre de tout repos parce que on avait pas mal d'intervenants aussi parfois qui remettaient un peu en question certaines choses, genre rien que le fait que qu'on ait mis des personnes racisées dans notre film, j'ai eu droit à des réflexions mais totalement aberrantes du genre mais t'es sûr que ça va pas détourner l'attention du spectateur et vous allez mettre quoi des bouddhas derrière du coup alors que nos personnages sont d'origine nord-africaine et du coup on est en même quoi ? Pardon, parce que j'ai bien entendu. Et du coup, ouais, non, mais ça partait dans des justifications aberrantes en mode non, mais t'inquiète, j'ai un ami noir, enfin voilà. D'ailleurs, je pensais qu'il était indien, c'est pour ça les bouddhas. J'étais en mode mais non, mais qu'est-ce que quoi ? Genre, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ouais, on avait. Quand t'as des figures d'autorité, au final, c'est un peu comme au collège et tout, et que tu dois t'y référer et que t'as affaire à ce genre de remarques, faut bien avoir la carcasse solide, entre guillemets, parce que du coup, tu te fais une face pâle, mais t'es en mode ok, t'essaies de dealer avec, t'essaies de dire non, c'est comme ça, enfin, ça représente un peu les gens autour de toi, en fait, si tu sortais un peu de ta bulle. Et du coup non bah on a pas lâché l'affaire de toute façon et pareil sur les problématiques de genre où on avait parfois du coup affaire à des réflexions, des remises en question du mégenrage ou quoi que ce soit de notre personnage principal on est en mode on essayait du coup de remettre en question. C'était assez bizarre parce qu'en fait notre personnage du coup prenait de plus en plus vie à mesure qu'on la défendait, c'était un peu drôle. Genre quand quelqu'un du coup un intervenant venait et mégenrait notre personnage, on disait non, c'est elle justement, c'est le sujet de notre film, enfin c'est un des sujets de notre film et du coup ça m'a aussi aidé, même peut-être moi-même aussi, à me dire parce que ce qui est drôle c'est que quand on est nous-mêmes confrontés à ces questions de genre et tout, on a tendance parfois en priorité à défendre nos amis, nos proches, d'autres personnes. Et nous, des fois, à nous effacer. Genre, par exemple, si j'ai une pote qui est mégenrée, moi, je vais gueuler pour que cette personne se remette en question. Mais par contre, quand c'est soi-même, en général, on a tendance parfois à s'effacer. Ce qui est drôle, c'est que du coup, avec mon film, du coup, on a commencé aussi un peu à dire non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas comme ça que notre personnage doit être perçu. Et du coup à remettre en cause d'autres personnes et ouais j'avais l'impression que c'était aussi une extension un petit peu de moi-même que j'essayais de défendre aussi et c'était ouais intéressant et enfin voilà
c'est génial. Parce que moi c'est en gros sur dans tes relations sentimentales et sexuelles, le fait d'être non binaire, quel est l'impact, comment est-ce que tu le vis?
Ouais, du coup, je pense que quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité de genre, à comprendre que j'étais non-binaire, et ben du coup, enfin, moi, genre, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai pas mal fait de de binge-watching sur toutes ces questions. Vraiment, j'étais à fond dedans pour, entre guillemets, maîtriser tout le vocabulaire, savoir comment même parler de moi-même, comment parler de genre. Et du coup, ça a été un effort un peu plus long, du coup, à faire par rapport à mon copain, où j'ai dû le reprendre, essayer de l'informer, de lui envoyer des articles, des vidéos, etc. Il y a eu des moments pas forcément hyper joyeux où du coup il y avait certaines questions qui pouvaient me blesser. Et ouais, ça s'est passé un petit peu aussi comme avec certains proches parfois où on peut entre guillemets vite oublier cette question parce qu'on t'a connu autrement pendant longtemps. Maintenant ça se passe très bien par rapport à ça. Je pense, mais c'est passé par un gros travail éducatif et pédagogique qui était assez fatigant, je pense. Je pense que les gens devraient avoir plus le réflexe de se renseigner par eux-mêmes plutôt que d'imposer cet effort aux personnes concernées en général, parce que nous, se justifier auprès de personnes qu'on aime, de qui on est proche ou quoi que ce soit, ça peut être hyper éreintant. Et je pense que c'est un réflexe un peu à développer aussi, cette façon de se renseigner par soi-même, quoi.
Et ton copain est ou était racisé ?
Non.
Je pensais si c'était une pédagogie liée à ta non-binarité ou s'il y avait aussi...
Les deux, en fait.
Oui, les deux.
Oui, oui. Ouais, parce que moi qui découvre aussi le militantisme asiatique, etc., forcément, ça fait que avant je pouvais laisser passer des petites réflexions innocentes ou quoi que ce soit, et après, je ne les laissais plus passer. Donc du coup, forcément, ça passait aussi par de l'éducation sur ces questions-là. Mm. Ouais, je pense que c'était assez fatigant. Mais ça va.
Est-ce que, Kelsey, tu t'es déjà sentie majoritaire ?
C'est là où c'est hyper important la non-mixité, d'ailleurs, où tu peux enfin te sentir un peu plus en phase avec toi-même, te dire qu'il y a plein de gens qui te ressemblent et que là, c'est un peu... qu'on peut faire même des blagues sur les dominants et tout, et ça fait plaisir.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
S'il vous plaît, merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.